Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 23 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et on passe au titre du journal. La Cour internationale de justice a déclaré qu'Israël devait satisfaire les besoins fondamentaux de la population civile de Gaza. La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de missiles la nuit dernière suite au report d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Des responsables ukrainiens affirment que les attaques russes ont tué 6 personnes, dont 2 enfants. En France, l'Assemblée nationale a rejeté hier, mercredi, dès l'ouverture des débats, une proposition de loi de report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Et on passe au journal de ce jeudi. La Cour internationale de justice a déclaré qu'Israël devait satisfaire les besoins fondamentaux de la population civile de Gaza. Le panel de 11 juges a ajouté qu'Israël devait soutenir les efforts de secours fournis par les Nations Unies dans la bande de Gaza et par les organismes des Nations Unies, dont l'UNRWA. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré espérer qu'Israël respecterait la décision.
On the other hand, this decision comes in a moment in which we are doing everything we can to boost our humanitarian aid in Gaza, and so the impact of this decision is decisive in order for us to be able to do it to the level that is necessary for the tragic situation in which the people of Gaza still is.
Des médecins australiens à Gaza affirment qu'il faudrait peut-être des décennies pour résoudre complètement les conséquences sanitaires de la guerre israélienne dans l'enclave palestinienne, mais ils espèrent qu'un cessez-le-feu, malgré fragile, permettra l'acheminement de fournitures essentielles dans la bande de Gaza. Tien Minh Dinh, médecin à Brisbane qui travaille avec Médecins sans frontières, explique que si la guerre a fait grimper les taux de malnutrition et d'amputation chez les Palestiniens, le traumatisme mental et émotionnel engendré par le conflit était intergénérationnel. Elle précise que les équipes de santé mentale de MSF encourageaient les jeunes Palestiniens à dessiner afin de les aider à assimiler ce qu'ils avaient vu ces 2 dernières années. La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de missiles la nuit dernière suite au report d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Des responsables ukrainiens affirment que les attaques russes ont tué 6 personnes, dont 2 enfants. Donald Trump avait indiqué la semaine dernière qu'il allait rencontrer Vladimir Poutine dans les 2 semaines à venir, mais aucune date n'a encore été annoncée pour le sommet. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été informé des attaques lors de son séjour à Oslo avant de se rendre en Suède pour rencontrer le premier ministre suédois.
Russia is not stopping, and that's why we have to do it together, all of us European partners, together with the United States. The pressure on Putin, he attacked. I've got the last details. We didn't know because we've been in the jet. They attacked kindergarten in the center of Kharkiv. And God bless all the children.
Le président américain Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions visant les 2 plus grandes compagnies pétrolières russes afin de pousser le président Poutine à négocier un accord de paix en Ukraine. Le président Trump espère que ces nouvelles sanctions inciteront le président russe à se montrer raisonnable quant à la fin de la guerre. Le président Trump a également défendu sa décision de ne pas fournir de missiles Tomahawk à l'Ukraine, affirmant que la formation des militaires ukrainiens à leur utilisation prendrait trop de temps. En Australie, la sénatrice indépendante Lilia Thorpe a demandé à ICAC, la commission indépendante d'enquête, d'enquêter sur la procureure générale du territoire du Nord, Marie-Claire Boothby. Sa décision fait suite aux inquiétudes suscitées par l'implication de Mme Boothby dans l'affaire de Jake Denby, un proche qui a plaidé coupable d'un accident de route mortel impliquant deux hommes des Premières Nations plus tôt cette année. Ensuite, Jake Denby a pris la fuite. Denby a été condamné à l'assignation à résidence après s'être vanté de l'agression et avoir envoyé des messages racistes. La sénatrice Thorpe affirme que Mme Boothby n'a pas divulgué ses liens avec Denby et que son ministère pourrait avoir interféré avec le fonctionnement de la Cour suprême pour dissimuler des informations relatives à cette affaire. Elle ajoute que cette affaire met en lumière une tendance plus générale au mépris du gouvernement envers les Premières Nations et appelle à une surveillance fédérale des actions du gouvernement du territoire du Nord. Le président du barreau de Nouvelle-Galles du Sud se dit profondément préoccupé par les révélations selon lesquelles 12 membres des Premières Nations sont décédés en détention dans l'État cette année, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Dominic Toomey a qualifié cette situation d'échec des politiques publiques et a déclaré que cela démontre que le gouvernement n'a pas tiré les leçons de la commission royale sur les décès autochtones en détention. Les dernières données montrent également que l'incarcération des membres des Premières Nations a augmenté de 18% pour les adultes et de 36% pour les enfants entre juin de 2023 et juin 2025. Dominic Toomey a déclaré sur NITV que cette surreprésentation accrue des membres des Premières Nations en détention est la principale cause de décès.
It's a matter of enormous concern to the Bar Association. But what we're really calling on the state government to do is to address the root causes. And that means spending money on programs rather than spending money on incarcerating First Nations people to address what sees them incarcerated in the first place.
Deux des principaux opérateurs de télécommunications australiens ont averti leurs clients que certains téléphones portables Samsung pourraient ne pas être en mesure de se connecter aux appels d'urgence 000. Telstra et Optus affirment avoir identifié 71 anciens appareils Samsung incapables de se connecter correctement au réseau Vodafone alors lorsque la couverture Telstra ou Optus n'est pas disponible. Telstra indique avoir informé Samsung et d'autres opérateurs de télécommunications après avoir découvert le problème. Les prix de l'immobilier connaissent leur plus forte hausse depuis 4 ans et Sydney devait atteindre une moyenne de 2 millions de dollars d'ici fin 2026 après une croissance significative de 3,4% au cours du trimestre de septembre. La valeur des maisons dans la ville portuaire s'établit à 1,7 million de dollars. Si cette croissance se confirme l'année prochaine, les prix de l'immobilier à Sydney atteindront 2 millions de dollars avant fin 2026. Nicolas Powell, responsable de l'économie de l'immobilier, affirme que la ville a franchi le seuil du million de dollars il y a seulement 12 ans.
We're expecting prices to continue to rise over spring and particularly around that property price cap which is set across all of the capital cities. So for Sydney it's 1.5 million. So we are expecting price pressure to come in.
La Chine a accusé l'Australie de tenter de dissimuler une intrusion dans son espace aérien après que l'Australie a émis des critiques concernant un incident impliquant un avion militaire chinois. Dans un communiqué, un porte-parole du ministère chinois de la Défense exhorte l'Australie à mettre fin à ce qu'il qualifie d'atteinte, de provocation et de battage médiatique. La question a été soulevée à Canberra. Le désaccord porte sur un incident survenu autour des îles Paracel au cours duquel l'Australie a affirmé qu'un avion de chasse chinois avait largué des fusées éclairantes près de l'un de ses avions de patrouille maritime. Le ministère australien de la Défense a accusé la Chine de conduite dangereuse et non professionnelle. En France, l'Assemblée nationale a rejeté hier, mercredi, dès l'ouverture des débats, une proposition de loi de report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Les précisions de Victorien Guillaume pour Radio France Internationale.
Comme les indépendantistes du FLNKS, les insoumis sont en effet totalement opposés au report des élections. Ils estiment que cela va permettre au gouvernement de passer en force sur l'accord de Bougival. LFI avait donc déposé des centaines d'amendements pour empêcher le vote du texte. Sauf que les députés du camp présidentiel ne l'entendaient pas de cette façon. Comme le gouvernement et les loyalistes, ils sont eux favorables au report des élections calédoniennes. Il s'agit de donner du temps au temps. Ce report va permettre l'apaisement et un retour du FLNKS à la table des discussions, a défendu en tribune un député Renaissance. Comme avec la loi du plomb en mai dernier, ils ont donc déposé une motion de rejet du texte. Si cela peut paraître contre-intuitif, concrètement, l'examen de la loi a été stoppé net et surtout la semaine prochaine, des sénateurs et des députés vont se réunir dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire pour se mettre d'accord sur le texte de loi. Il y aura ensuite un vote solennel au Sénat et à l'Assemblée. Quant à savoir si cette loi sur le report des élections trouvera une majorité, nous verrons, répond sans se mouiller un député du Rassemblement national.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 20. Melbourne, 18. Hobart, 16. Canberra, 23. Sydney, 22. Brisbane, 34. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Fin du journal. Et merci à vous de l'avoir suivi. Sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports et on va faire une page spéciale pour la Ligue des Champions puisque mardi et mercredi étaient une journée donc de Ligue des Champions. Et retour sur la journée d'hier avec Eric Mammouth pour RFI.
La peur bleue des Reds à Francfort, les joueurs de Liverpool menaient 1-0 sur la pelouse de l'Eintracht, mais qui ont finalement dissipé avec autorité le spectre d'une cinquième défaite consécutive en s'imposant 5-1. L'Égyptien Mohamed Salah n'a joué qu'un quart d'heure après avoir débuté sur le banc pour la deuxième fois d'affilée en Ligue des Champions. 5-1 également pour Chelsea face à l'Ajax Amsterdam, carton encore du Bayern Munich face au Club Bruges, 4-0, dont l'un du Sénégalais Nicolas Jackson. Autre buteur africain du soir, Victor Osimhen avec Galatasaray, vainqueur de Bodeglim 3-1. Un doublé du Nigérian dans la foulée de son triplé inscrit la semaine passée en sélection face au Bénin. Son compatriote Ademola Lookman est en revanche resté muet avec l'Atalanta Bergame contre le Slavia Prague, score final 0-0. Victoire de l'Athletic Bilbao, du Ghanéen Iñaki Williams face à Karabakh 3-1. Grâce à Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé la Juventus Turin 1-0. Enfin, Monaco a concédé le nul à domicile contre Tottenham 0-0, tandis que l'Olympique de Marseille s'inclinait chez le Sporting Portugal 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang avait signé une passe décisive sur l'ouverture du score avant que l'expulsion d'Emerson en fin de première période ne vienne tout gâcher pour les Marseillais.
Alors vous l'avez compris, Marseille a perdu 2-1, une défaite compliqué pour les Marseillais, comme nous l'explique Cédric De Oliveira.
On va dire qu'il a perdu un peu le fil de sa rencontre. Il mettait un peu sur la fin du match, il y a eu un carton rouge donné à un joueur du Sporting. Il est revenu un peu sur sa décision avec la vidéo après une altercation avec Pavard. Voilà, c'était un peu confus. Et l'OM à 10 contre 11, je crois que voilà, c'était un petit peu trop pour l'OM qui après en infériorité numérique, n'a pas pu faire grand-chose face au Sporting.
Cédric De Oliveira, donc, sur cette défaite compliquée des Marseillais. Allez, un retour sur la journée de mardi avec, entre autres, la très belle victoire du Paris Saint-Germain. Et on écoute cette journée détaillée par Babacar Diarra.
Sans pitié, Paris repart de Leverkusen avec un succès écrasant. 7 buts marqués, une valise jamais laissée par un visiteur face à un club allemand en Coupe d'Europe. Même le ballon d'or Ousmane Dembélé y est allé de sa réalisation en seconde période dès sa deuxième touche pour son retour sur les terrains un mois et demi après sa blessure à la cuisse. Précédente victime du PSG en C1, le Barça a aussi expédié les affaires courantes face à l'Olympiakos, giflé en Catalogne 6 buts à 1, 6 buts comme les Néerlandais du PSV Eindhoven, vainqueur pour la première fois cette saison en Ligue des Champions après avoir infligé un 6-2 au Napoli, pire défaite du club italien sur la scène européenne. En tête du classement avec 9 points comme le PSG, Arsenal et l'Inter Milan ont livré des partitions offensives abouties 4-0, respectivement à domicile face à l'Atlético et à l'extérieur contre l'Union Saint-Gilloise. Dortmund rôde en embuscade derrière ce trio en comptabilisant 7 points grâce à sa victoire 4-2 à Copenhague. Et puis dans ce festival, le 2-0 de Manchester City à Villarreal paraît presque anodin, sauf pour l'attaquant Erling Haaland qui a fait trembler les filets pour le 12e match de rang.
Voilà donc pour la journée de mardi de cette Champions League. D'ailleurs, un mot, celui d'Ousmane Dembélé. Il est rentré, vous l'avez compris, il est rentré et a marqué tout de suite. Retour de blessure après avoir bien célébré son ballon d'or. Il a bien raison. On écoute Ousmane Dembélé.
On a bien démarré le match en ouvrant le score. Après, on a eu une période un peu difficile où il y a eu beaucoup de cartons jaunes, des cartons rouges aussi. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l'éviter, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, on est resté dans le match avec deux buts de Dest juste avant la mi-temps qui nous ont fait du bien. Et puis on n'avait plus qu'à dérouler en seconde période. Il faut continuer comme ça. C'est que la première partie de saison, il va falloir être juste dans les clous, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Et puis voilà, on va continuer notre chemin tranquillement.
Voilà, c'était donc Ousmane Dembélé au classement de cette Champions League. Eh bien, le Paris Saint-Germain est en tête avec 9 points, ex aequo avec le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, Arsenal, le Real de Madrid. Marseille est quant à lui 18e de ce classement avec 6 points. Le club Bruges est 20e avec 7 points. L'Union Saint-Gilloise est 24e avec 4 points. Et Monaco est 27e avec 3 points seulement. Voilà, ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes bien entendu sur Radio SBS. À tout de suite.
h 21 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et dans 36 secondes, on passe au journal de l'économie, comme chaque jeudi. Et vous serez en compagnie de Nicolas Perpich et de Christophe Mallet.
Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie à l'antenne de notre programme avec notre spécialiste de la question, Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et là, il y a une bonne nouvelle, hein, entre guillemets, on va dire. Si vous êtes un des voyageurs de Rex, en tout cas, ou alors dans les régions, la ligne aérienne ou la compagnie aérienne Rex a été sauvée. Par contre, il y a des contreparties, et notamment pour les créditeurs. Expliquez-nous tout ça.
Oui, voilà. C'est peut-être pas une super bonne nouvelle pour les créditeurs, les actionnaires, mais c'est vrai que, bon, Rex, c'était une ligne aérienne principalement, jusqu'à qu'ils ont décidé qu'ils allaient en fait aussi essayer de faire compétition avec les plus grandes lignes aériennes à Sydney, Melbourne, Brisbane, et ça n'a pas du tout marché pour eux. Donc en fait, ils ont eu des problèmes très sévères et donc ils ont annoncé qu'ils étaient en administration en juillet l'année dernière. Donc en fait, ils ont plus ou moins été obligés d'arrêter de leur service qui était
de déposer le bilan
pour beaucoup de gens. Ouais, voilà. Et ils avaient 57 avions en fait tout autour de l'Australie. Donc c'était un rôle très important dans les régions pour les gens qui voulaient voyager ou pour aller à l'hôpital dans un des grands centres à Sydney, Melbourne, ailleurs. Donc c'est vraiment assez sérieux. Et là il y a une ligne aérienne américaine qui s'appelle AirTri. Et là, ils ont dit qu'ils allaient acheter Rex, ce qui pourrait sauver Rex tout à fait, parce que AirTri, c'est une compagnie qui est bien connue. En fait, c'est eux qui sont principalement qui sont responsables pour la transportation pour FedEx. Et non seulement ça, mais ils ont un grand système aux États-Unis d'entretien d'avions. Et ils ont une énorme réserve de pièces d'avions. Et ça, c'est très important parce que justement, les avions de Rex, c'est des avions un peu plus âgés. Et donc, ils ont besoin d'entretien. Ils ont besoin de ces pièces. Et là,
ils ont beaucoup d'avions à hélice. C'est beaucoup des avions à hélice aussi, des avions.
Voilà.
Faut rappeler que Rex, ça veut dire Regional Express. C'est vraiment une.
Regional Express.
On parle de une petite compagnie aérienne, mais qui a un impact tellement important pour énormément d'Australiens, qui est au cœur de l'Australie.
Voilà, c'est essentiel. Et c'est essentiel. Et ça fait depuis très longtemps qu'il y a des problèmes dans ce secteur en Australie, à vrai dire. Il y a longtemps, il y avait une ligne qui s'appelait Ansett. Et là c'est la Ansett, ils sont disparus depuis longtemps. Et c'est un marché très difficile parce que c'est vraiment dominé par Qantas et il y a Virgin aussi, mais les autres, pour avoir une troisième ligne aérienne en Australie, c'est très compliqué. Il y en a eu plusieurs qui ont essayé, mais ça ne marche rarement. Et là, donc vraiment, on en a besoin justement pour les régions parce que sinon on dépend juste sur Virgin et Qantas et ça peut coûter très 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 cher.
Absolument. Oui. Pour faire une aparté, on parle de ce qui s'est passé avec Rex au niveau du aux portes du dépôt de bilan. Notamment, les deux autres compagnies aériennes que vous annoncez ne sont pas toutes blanches non plus dans cette histoire. Ils ont vraiment serré le marché pour s'assurer qu'il n'y ait pas un troisième compétiteur sur le réseau. Et c'est quelque chose qui a déjà fait avant, ça.
Oui, donc il y avait ça déjà. C'est extrêmement compétitif et eux, ils resserrent le marché, donc ils font exprès dans un certain sens. Mais aussi, c'était une très mauvaise décision par Rex d'essayer d'entrer dans le marché des grandes capitales, des grandes villes, Sydney, Melbourne, parce que là, c'est complètement dominé par les autres. Ils n'avaient aucune chance, ils ont perdu énormément d'argent. Donc ça, c'était une très mauvaise décision. Mais là, il y a un peu d'espoir avec AirTri, sauf qu'ils ont dit que pour les 4800 créditeurs, là il y a pas d'espoir. Eux ils vont pas retrouver leur argent. Il y a une somme d'à peu près 500 millions de dollars et là ils vont pas recevoir un centime, on dirait, parce que là vraiment ils viennent sauver cette ligne, mais ils sont pas là non plus pour repayer les créditeurs. Donc ça va être difficile. Mais bon, pour le gouvernement fédéral, c'est un bon pas en avance. parce que, comme on vient de dire, c'est un service, c'est commercial, mais c'est beaucoup plus que ça.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un service essentiel, vraiment, parce que l'Australie, comme on le sait, est un énorme pays. Donc, c'est ça aussi qui est difficile pour une ligne, une aérienne comme ça, qui n'est pas très grande. Les distances sont tellement énormes.
Absolument.
Donc, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher.
Ouais. Absolument. Et c'est bon, on verra ce que la ligne nous dira, mais en tout cas, peut-être de meilleures heures pour Rex. Et maintenant, on va parler de l'argent liquide que vous avez dans vos poches et le gouvernement fédéral qui a proposé de nouvelles lois pour justement réglementer l'usage des liquidités, l'usage de l'argent liquide, l'usage des billets et des pièces.
Oui, voilà. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, j'ai rarement de l'argent en espèces.
Il y a très longtemps que j'ai eu un billet dans les mains, ça, c'est sûr.
Oui, voilà. C'est rare. Et on est un peu tous comme ça. C'est tellement facile. On a le téléphone, voilà, on paye comme ça, ou une carte de crédit. C'est tellement facile. Mais en fait, l'argent en espèces, c'est quand même important. Il y a des gens pour qui c'est encore ce qu'ils utilisent ou ils ont besoin de ça. Et donc, le gouvernement veut obliger les business à continuer à accepter l'argent en espèces, mais avec certaines limites, parce qu'ils disent qu'il y a pas mal d'exceptions, en fait. Les business qui font moins de 10 millions de dollars par an, eux, ils vont pas être obligés. Donc ça, en fait, c'est énormément de business. Et vraiment, ça vise principalement les supermarchés et les stations d'essence. Donc la nourriture et l'essence. Donc des choses assez essentielles, parce que il y a des gens qui travaillent toujours en liquide ou en espèces, mais aussi c'est important de pouvoir toujours utiliser de l'argent en espèces comme ça dans des cas même assez particuliers, mais les gens qui fuient la violence domestique, et ça on en a pas mal parlé, que si par exemple il y a une femme qui fuit un homme abusif, l'argent en espèces c'est anonyme, donc elle peut pas être suivie, donc il y a une question de sécurité là très importante, et ça c'est aussi une des questions, une des choses auxquelles le gouvernement a pensé avec ça. Donc c'est pour ça que il y a cette obligation pour les grands supermarchés et les stations d'essence. Donc
de toujours accepter les espèces. D'accord.
Toujours accepter.
Ça s'étend à d'autres types de commerces.
C'est ça la chose. Il y a beaucoup d'exceptions. Donc les petits supermarchés, non. Le boucher du coin, non. Les general stores, etc., non, pas tellement. Donc il y a des gens qui disent que bon, en fait ça va pas vraiment marcher. Ils disent qu'il y a ce cash mandate, comme on dit en anglais, mais il y a tellement d'exceptions, il y a tellement de trous qu'en fait ça va pas arrêter ce mouvement à toute allure vers une économie numérique, de paiement numérique sans d'argent en espèces. Donc voilà, il y a pas mal de critiques de cette loi, et en fait là c'est pas tout à fait décidé. Là il y a une période où le grand public peut donner son avis, peut donner son coup. C'est une période de public submissions, on dit. Donc on attend là encore quelques mois. Et si ça change pas, ça va commencer en janvier. Donc il y a encore 2-3 mois où on peut au moins dire qu'il faudrait que ça soit plus. Il y a bien moins de trous, qu'il y a moins d'exceptions.
D'accord. Bah, affaire à suivre. Merci Nicolas d'avoir décrypté ces deux sujets pour nous.
Merci Christophe.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
13h et bientôt 34 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On écoute maintenant Ibrahim Maalouf, trompettiste et compositeur franco-libanais, qui est arrivé en Australie pour le Melbourne International Jazz Festival. Il se produit d'ailleurs ce soir à guichet fermé. Et on l'écoute, il est au micro de notre collègue Christophe Mallet.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme En Français sur Radio SBS, on a le grand plaisir d'avoir Ibrahim Malouf, un des artistes français que, personnellement, j'adore. Ibrahim Malouf, bonjour et merci de prendre du temps un peu. Alors, c'est une grande tournée avec une date en Australie, je crois. Déjà, pour commencer, l'Australie, vous connaissez? Vous êtes déjà venu?
C'est la première fois que j'ai mis les pieds en Australie.
D'accord.
Et je vous avoue que je suis très excité parce que j'ai pas mal d'amis qui ont visité l'Australie. Beaucoup m'en ont dit énormément de bien et ça a toujours été une sorte de frustration d'être toujours pas allé visiter l'Australie. Et là, j'y vais, je fais d'une pierre deux coups. C'est, j'y vais et je vais pouvoir passer deux jours là-bas et donc me balader un peu. Et en même temps, j'ai l'occasion de faire un concert à Melbourne. Donc, je suis content. J'arrive à lier l'utile et l'agréable.
Voilà, tout à fait, ouais. Quand on connaît votre travail, il y a beaucoup de collaborations. On va parler un peu de ça, d'ailleurs. Mais avant ça, justement, l'Australie, pour vous, c'est aussi une terre qui a des sonorités spécifiques, il y a des instruments spécifiques. C'est vrai qu'on pense au didgeridoo, mais il y a tellement d'autres choses. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y aura peut-être des chances, peut-être, d'expériencer ça, de voir un peu comment ça se passe à l'autre bout de la planète avec des instruments un petit peu différents?
Oui, alors c'est vrai que on connaît très mal et très peu finalement la culture australienne. En tout cas, en France, on sait pas énormément de choses. Et là, sur cette première visite, c'est évident pour moi que une des premières quêtes va être d'aller comprendre un peu culturellement comment la culture australienne se développe musicalement, culinairement, les danses qui pourrait y avoir, un type genre danse traditionnelle. Musique pop aujourd'hui, le jazz. Est-ce qu'il y a un jazz australien? À quoi ça ressemble? Je suis assez curieux de effectivement d'aller visiter et de découvrir. Et qui sait, peut-être après pour une prochaine visite créer une collaboration ou faire quelque chose de sympa.
Ouais, non, absolument. Et puis bon, il y a des artistes qui l'ont déjà fait. Il y a Bellurette, il y avait Jamiroquai qui avait intégré du didgeridoo dans ses sonorités. Donc ça peut être super sympa. Si on revient un petit peu à l'essence d'Ibrahim Malouf, donc vous êtes toujours bercé dans la musique, et on va parler de l'album là qui est sorti. Il y a une photo sur l'album, c'est votre grand-père qui est dans la chorale, je crois. Donc il y a cette lignée qu'on mène de liaison avec la musique.
Ouais, alors c'est pas une chorale, c'est la fanfare du village d'où je viens au Liban, et c'est une photo de 1924 qui a été publiée dans le journal de mon village au Liban en 1925, donc il y a exactement un siècle, et on y voit entre autres mon grand-père. Et c'est la fanfare qui a donné envie à mon père de faire de la musique quand il était jeune. Et c'est ce qui ensuite a provoqué ma passion pour la musique. Donc c'est comme une lignée de trompettistes et de musiciens de fanfare qui a démarré il y a au moins un siècle.
Ouais, tout à fait. Alors, c'était au Liban. On sent qu'il y a les racines aussi du Liban. Vous êtes franco-libanais. Aujourd'hui, ça se transmet comment dans votre musique, ces racines justement libanaises?
C'est partout et en même temps, c'est pas que c'est nulle part, mais c'est dans l'ADN de tout ce que je propose musicalement depuis toujours. L'Orient, la culture arabe sont là et très présents, mais aussi l'Occident, la culture occidentale, la musique classique qui est un peu aussi ma musique maternelle. Donc on va dire que c'est là, c'est présent, c'est très important évidemment, mais ça fait pas tout. Ça fait une partie de l'ADN musical que tout le monde travaille.
On a parlé pas mal des collaborations, c'est quelque chose qui vous a défini aussi pas mal sur les dernières années. Ça fait plus de 20 ans que vous tournez, mais il y a eu beaucoup de collaborations. C'est essentiel pour vous justement de pouvoir échanger à la fois artistiquement, mais aussi humainement avec des artistes et des gens qui pas forcément du même monde que vous.
Ouais, c'est fondamental aussi parce que je trouve que d'abord, moi, jeune, c'était vraiment ma passion de me sentir connecté au monde, et il n'y a rien de tel que de collaborer pour se sentir connecté au monde, collaborer avec des artistes très différents, qui viennent de mondes différents musicaux, de géographies différentes, de cultures différentes, de styles différents, etc. Et puis, je pense qu'à notre époque, les gens se croient connectés ou se pensent connectés les uns aux autres parce que virtuellement, on arrive à créer des ponts comme ça plus facilement. Mais en réalité, est-ce qu'on partage vraiment beaucoup de choses quand on est dans un lien virtuel? Je sais pas. Alors moi, j'aime réussir à créer au moins artistiquement des choses en vrai. et c'est quelque chose qui me qui me permettent de me sentir lié au monde dans lequel je vis.
Vous êtes au sein du Melbourne Jazz Festival. C'était un gros festival pour nous, en tout cas en Australie. Est-ce qu'il est connu, ce festival? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que pour vous, c'était important un jour, justement, de faire ce festival aussi?
Oui, j'en avais entendu parler depuis 2-3 ans, parce que aussi j'avais manifesté cette frustration en disant, mais j'ai les amis, j'ai toujours pas joué en Australie, comment ça se fait? Ça fait 40 fois qu'on va aux États-Unis, qu'on va dans l'Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Asie, on va partout. Et pourquoi l'Australie? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien y aller. Et on m'a dit, justement, on m'a parlé de ce festival en me disant, bah justement, il y a un chouette endroit où il faudrait vraiment que tu ailles. Moi, je leur disais, il y a Sydney, on n'a jamais joué à Sydney. On me dit, oui, mais attention, il y a un gros festival à Melbourne qui est vraiment chouette. Il faudrait plutôt que tu ailles là-bas. Ouais. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça.
D'accord, bah je peux le confirmer. C'est un très beau festival. Juste pour conclure un peu cette interview, j'ai vu une anecdote. Superbe, on parlait de la filiation et que vous aviez commencé petit, mais très petit, vous avez joué au mariage d'un pilote de F1 qui est aussi le fils de Jean-Paul Mémondo, si je me trompe pas.
Ouais, absolument. Comment vous avez su ça?
Parce que je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Mais c'est une belle anecdote quand même.
Bah, parce que ça fait partie des choses que j'ai pu faire jeune, qui m'ont un peu fasciné, qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin, qui m'ont donné confiance en moi aussi, et c'est pour ça que je suis autant dans l'encouragement des jeunes. C'est parce que je sais à quel point parfois des petites choses peuvent susciter des vocations, et monter sur scène à côté d'un artiste, jouer avec lui, participer, voir le public, cette énergie qui est quand même quelque chose d'assez magique, ça donne envie, je pense, et voilà, je me suis donné un peu cette mission là d'essayer de motiver un maximum de monde à s'intéresser à la musique suscite l'empathie, elle nous apprend à nous comprendre les uns les autres malgré nos différences, c'est un vecteur de communication, de communion qui est absolument magnifique, et quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on se dit qu'on en ferait quand même bon usage.
Absolument. Alors, si vous êtes à Melbourne, et si vous êtes pas loin de Melbourne, ça vaut vraiment le coup. C'était le 23 octobre, c'est à 170 Russell Street, en plein cœur de la ville. Vous allez voir, et nous, on va kiffer, mais je pense que vous, Ibrahim, vous allez aussi vraiment apprécier Melbourne. Je sais que vous aurez le temps de découvrir également. Et merci de nous avoir donné un petit peu de temps aujourd'hui en chemin justement vers l'Asie.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis voilà, encore une fois, plus le public est là, on va faire la fête, on va chanter, on va danser. Voilà, et plus je serai ravi de pouvoir partager des moments avec le public australien.
Et voilà Ibrahim Malouf qui nous interprète Fly With Me, 13h43 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On continue l'émission, cette fois avec la deuxième partie de l'interview avec Clément Balou, qui est auteur de bande dessinée, illustrateur et storyteller, qui nous parle de son livre « Vietnamese Memories Down Under ». Il donne d'ailleurs une conférence ce jeudi 23 octobre à Monash University, en ville, à l'adresse suivante, 750 Collins Street, qui se trouve à Docklands, à partir de 17h30.
Donc à Marseille, il y a une communauté vietnamienne, il y a deux pagodes vietnamiennes, mais cette communauté vietnamienne, elle n'est pas récente. En fait, c'est moins des boat people parce que les boat people, ça commence en 1975. Ce sont des gens à Marseille qui sont arrivés avant, qui sont arrivés plutôt pendant, donc encore une fois, la guerre civile ou guerre américaine, ou qui sont même arrivés encore avant, au moment du départ de la France, la fin de la colonie d'Indochine. Donc dans les années 50. Donc c'est une population qui est installée depuis un petit moment à Marseille. Donc ce qui est marrant, c'est que les Marseillais qu'on croise dans la ville, souvent ils ont un fort accent marseillais. Bon, moi je l'ai pas, mais voilà, il y a pas mal de gens qui ont l'accent marseillais. Donc c'est assez folklorique. Et dans le quartier où je suis, c'est un ancien quartier. Enfin c'est un quartier où anciennement il y avait pas mal de Vietnamiens. Donc ils ont diffusé les enfants, la seconde génération, la troisième génération. Ils ont un peu diffusé dans la société. Donc il y a moins de quartiers. Il n'y a pas un Little Saigon à Marseille. Mais là où je suis, au 5 Avenue, il reste des traces parce qu'il reste des restaurants en fait qui sont là depuis longtemps, qui sont repris par les enfants. Donc il y a ces traces là qu'on voit, qu'on devine. Bon, notamment grâce au restaurant. Et encore une fois, les deux pagodes. Et puis après, les Marseillais vont être un peu disséminés à travers la ville. Et c'est généralement ce que j'ai pu constater, à part à Paris, dans le 13e arrondissement. La plupart du temps, dans les autres villes de France, les gens de la diaspora vietnamienne sont pas forcément réunis dans le même quartier. Bon, encore une fois, avec l'exception du 13e arrondissement à Paris, qu'on appelle Chinatown, mais qui en fait, où il y a énormément de populations d'origine vietnamienne.
Et Marseille, c'est une ville multiculturelle comme Melbourne, où on peut retrouver le quartier vietnamien à Footscray, à Springvale ou à Parramatta, à Sydney.
Alors, Marseille est très multiculturel. C'est la porte d'échange, de contact avec la Méditerranée, avec le continent africain et le Moyen-Orient. Donc, certaines mauvaises langues disent que Marseille n'est pas vraiment en France, mais déjà en Afrique. c'est pas complètement faux, mais ça offre justement des décors assez savoureux, de la cuisine du monde qu'on peut trouver un peu partout au fur et à mesure des rues. Donc c'est une ville qui a une identité très spéciale. Et puis il y a aussi faut pas oublier non plus les Italiens, hein, qui il y a une forte immigration italienne, donc elle est très imprégnée par l'Italie. Ça aussi, c'est pour moi, enfin, je trouve que c'est un point fort. Et puis voilà, c'est un port, donc ça bouge, c'est ouvert. Je me sens assez bien, je dois dire, à Melbourne. Je pense qu'il y a des points communs. J'ai l'impression qu'il y a souvent quelque chose comme ça dans les grandes capitales ou grandes villes du sud d'un pays qui sont ouvertes sur la mer. Il y a des similitudes. Après, Marseille est une ville difficile, je vous le cache pas, hein. C'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de création. Il y a beaucoup, par exemple, un tissu associatif très fort, et donc là en ce moment je vois qu'il y a des initiatives menées par des gens plus jeunes que moi sur la culture asiatique à Marseille. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vivant, c'est chez moi.
Et y a-t-il des anecdotes que vous aimeriez partager avec nous concernant la communauté vietnamienne ici en Australie et qu'on retrouve dans votre livre Vietnamese Memories Down Under?
Bon, je serais tenté de dire aux gens de venir à la conférence pour les entendre et et de prendre le livre pour les lire. Mais bon, ok, jouons le jeu. Je vais vous raconter une des anecdotes. Bon, elle est légère, hein, parce qu'il y a des choses, vous verrez dans le livre, il y a des choses très dures. Hein, l'épisode des Bad People, c'est très dur. Hein. Il faut se rappeler que quand les gens prenaient la mer pour fuir le Vietnam, en gros, une personne sur deux arrivait à destination. Donc le taux de mortalité, c'est absolument dramatique. Ensuite, il y a le fait de ne pas pouvoir trouver tout de suite un pays d'accueil. Ça se fait pas comme ça. Donc c'était organisé dans des camps de réfugiés qui étaient notamment supervisés par l'ONU. Et puis de là, les gens pouvaient attendre très longtemps, parfois des années, dans un camp de réfugiés. Alors souvent en Malaisie ou en Indonésie, c'était là où il y en avait le plus. Mais il y avait aussi Hong Kong, il y a aussi la Thaïlande. Avant d'être accueilli dans un pays, et là dans le pays, bon ben voilà, on arrive sans rien, on est très vulnérable, hein, en quelque sorte, hein, on ne connaît pas la langue, on n'a pas de possession, on est pauvre, quoi, tout simplement. Donc il y a tout ça qui est raconté dans la BD. Alors plus en détail, voilà, c'est des épisodes très durs. Mais je vais vous raconter quelque chose de plus léger, d'accord?
Oui.
Donc un jeune homme, un adulte, hein, quand même, de la communauté vietnamienne, qui a bien voulu me raconter un peu son enfance. Et alors il dit, là c'est de mémoire, hein, il dit quand il était gamin, donc voilà, ici dans les au collège, au lycée, en Australie. Il y a tous les petits camarades qui avaient des t-shirts taille, donc avec des espèces de motifs colorés. Voilà, c'est moi j'ai connu la même chose à l'époque avec les t-shirts Waikiki. Bon, bref. Et donc tout le monde veut cette marque de t-shirt. Et avec donc des motifs colorés dessus, et donc il demande à sa mère s'il peut avoir ce t-shirt là, mais c'est des t-shirts de marque, donc ça coûte cher. Et comme je vous le disais, on est fraîchement arrivé, enfin immigrant, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Donc la maman, pour faire au mieux, elle prend un t-shirt blanc et puis elle le peint elle-même, d'accord. Et puis qu'est-ce qu'elle peint sur le t-shirt? Elle peint un arc-en-ciel. Voilà. Et donc après, lui se retrouve à devoir porter un t-shirt avec un arc-en-ciel, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'a pas du tout la même signification que les t-shirts tie and die qui vont évoquer plutôt, voilà, un truc un peu festif, fun, d'inspiration indienne. Et mais un t-shirt avec un arc-en-ciel, c'est complètement autre chose. Donc voilà, donc il est obligé d'aller avec son t-shirt arc-en-ciel à l'école, ce qui est un peu la honte et ce qui forge aussi le caractère, Donc voilà, c'est un petit détail. C'est un petit décalage culturel, mais qui montre qui finalement en creux en dit pas mal. Et puis lui, il dit rien à sa mère, il se plaint pas à sa mère, il est brave malgré tout. Donc voilà, je trouve ça assez touchant d'imaginer cette personne qui va très bien aujourd'hui, qui a très bien réussi sa vie, voilà, comme un gamin qui est déçu mais qui serre les dents quand même pour ne pas faire de peine à sa mère, dont il sait qu'elle fait de son mieux.
Peut-on peut-être parler de vos projets d'avenir, Clément Balou, comment dire en bon français, des work in progress que vous aimeriez partager avec nous?
Alors, avec grand plaisir. Alors, il y a un projet qui arrive très vite là en France, qui a une dimension écologique. Enfin, une dimension de message écologique. Juste avant, j'aimerais préciser que l'écologie, la nature sont des choses qui me traversent, qui me tracassent quand on voit l'état du monde aujourd'hui. Bon, voilà, je déteste les gens qui donnent des leçons, donc je vais pas en donner, mais juste pour signaler que récemment, j'ai fait un album qui s'appelle J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Donc c'est une bande dessinée tirée d'un livre d'Alexis Génie, qui est un écrivain français qui a eu le prix Goncourt en 2011 avec L'art français de la guerre. Et ce livre raconte la vie de John Muir, donc c'est une biographie. Donc Alexis Génie l'a fait sous forme littéraire et moi je l'ai fait sous forme de bande dessinée. Donc c'est la biographie de John Muir, qui est le premier écologiste américain. Et donc au milieu du 19e siècle, il a conscience que la véritable richesse aux États-Unis, c'est la nature, et il va tout faire, il va consacrer toute sa vie à partir du moment où il a cette révélation à préserver la nature. Et c'est le père, on l'appelle comme ça, le père des parcs naturels, donc de sanctuaires où on n'a pas le droit d'exploiter la nature, où la nature continue de prospérer. Donc j'avais fait cette bande dessinée et là aujourd'hui j'ai un nouveau projet qui a comme ça une teinte un peu soucieuse de l'écologie, mais assez différente. C'est le Marégraphe de Marseille, et on revient dans ma chère ville de Marseille. Le Marégraphe de Marseille, c'est un appareil et un lieu qui est au bord de la mer, sur la corniche, donc les pieds dans l'eau, ancré dans la roche, mais avec un tunnel qui va dans l'eau. Et le Marégraphe de Marseille mesure le niveau de la mer Méditerranée depuis 120 ans. Et en fait, ces mesures servent à dire si le niveau de la mer globalement monte ou s'il descend. Bon, alors la mauvaise nouvelle, c'est que l'eau monte. Et en fait, depuis 120 ans, ces données sont fournies à l'ensemble des scientifiques et actuellement aux membres du GIEC. Et ça permet, par exemple, aux membres du GIEC de documenter les rapports qu'ils font chaque année. Donc ça se passe à Marseille. Et il y a un petit comité scientifique qui m'aide, qui s'appelle les Amis du Marégraphe. Et donc on travaille sur cet album et il va être disponible dès Noël prochain. Alors en français, et puis après, début janvier 2026, on va en faire la promotion. Donc ça va s'appeler tout simplement le Marégraphe de Marseille, et ça nous explique ce qui se passe au niveau de la mer.
Clément Balou, merci à vous et bon séjour en Australie.
Merci beaucoup, merci aux auditeurs.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Et en fin d'émission, on passe à un rappel des titres du journal de ce jeudi. La Cour internationale de justice a déclaré qu'Israël devait satisfaire les besoins fondamentaux de la population civile de Gaza. Le panel de 11 juges a ajouté qu'Israël devait soutenir les efforts de secours fournis par les Nations Unies dans la bande de Gaza et par les organismes des Nations Unies, dont l'UNRWA. La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de missiles cette nuit suite au report d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Des responsables ukrainiens affirment que les attaques russes ont tué 6 personnes, dont 2 enfants. Et puis en France, l'Assemblée nationale a rejeté hier, mercredi, dès l'ouverture des débats, une proposition de loi de report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, on arrive presque à la fin de cette émission. On se quitte avec Élodie Sablier au piano avec Nocian. Très bel après-midi. À bientôt sur les ondes de Radio SBS les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 13h. À bientôt.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.